Podcast.com. Essaye ça.
Crachoir numéro 98, celui de la crise du verglas, tel qu'annoncé. On avait bien dit qu'on n'en parlerait pas le choix. C'est un incontournable de l'histoire du Québec. Et qui dit histoire dit Jay Rivard. Salut Jay.
Salut, ça va?
Ça va très bien.
Yes.
Tu vas nous compter ça en gros, la crise du verglas. Puis je pense que moi puis Martin, d'ailleurs, oui, Martin est là. Salut Martin.
Salut.
Salut.
De retour des limbes, alors ça va très bien.
Oh, et là, t'es vraiment, vraiment plus malade. T'es à deux shows, là, faut plus.
C'est ça, exactement.
Vas-y, mon Jay.
Ouais, dans le fond, je vais vous dire, la crise du verglas, là, on avance dans le temps. J'ai 9 ans, puis là, mes souvenirs sont très clairs comparativement au référendum, puis au déluge du Saguenay. La crise du verglas, tu sais, nous autres, on l'a pas vraiment vécu en Abitibi. Tu disais, hors d'onde, dans le fond, Frank, que toi, tu l'as vécu, la crise du verglas?
Ouais, moi, j'étais pas en Abitibi, même que j'y étais jamais venu de ma vie. À ce moment-là, okay. Je vivais à Gatineau, en Outaouais. Puis à Gatineau, je suis allé voir, après coup, parce que je me rappelle de mon souvenir de quoi ça avait de l'air, mais je suis allé voir le bilan, là. Il y avait 16 000 foyers à Gatineau, juste dans la ville de Gatineau, qui n'avaient plus de courant. Puis un de mes amis était dans cette gang-là, plus d'eau chaude, plus d'électricité, les tuyaux gel qui pètent, puis tout ça. Lui, il restait chez ses parents, mais là, plus de guitare électrique, puis les guitares tordent à cause du froid, puis plus de TV, plus de rien d'électricité, là. Puis là, il trouvait ça tough. Fait qu'il venait chez nous, parce que moi, je pense que dans toute la crise du verglas, en plein cœur de Gatineau, là, on était en ville, là. Pour ceux qui connaissent, là, pas loin des promenades de l'Outaouais, là, quoi, sur Grébert et Maloney. Puis en plein cœur de Gatineau, moi, je pense que j'ai manqué de courant à peu près un grand total de 4-5 heures divisées en 3 shots à peu près. J'étais vraiment parti des chanceux. Moi, je jouais au PlayStation pendant que les transfos pétaient dehors. Puis je sortais dans la rue, hein. Puis tu marchais, puis t'entendais les morceaux de glace tomber. T'entendais les transfos péter, le boum! Tu sais, t'entendais ça au loin, puis t'entendais de la glace tomber tout le temps, des fils sans arrêt. Puis des affaires craquées, des branches pétées. Tu sais, il y a tellement de branches qui cassaient que si tu sortais dehors, c'était pas « Ah, il y a des branches qui ont tombé ». Tu regardais tomber live, c'était comme non-stop, ça arrêtait pas de casser partout. Mmh. Fait que moi, je sortais dehors, je voyais tout ça, puis je revenais chez nous au chaud. J'étais chanceux.
Ben c'est ça, comme je disais, moi, tu sais, je restais pas dans le triangle noir, là, comme on l'a appelé. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens que cette année-là, en 98, on était allé voir une game du Canadien, dans le fond, ma famille puis moi. Puis je me souviens, j'ai des images bien claires de moi qui regarde dehors. Tu sais, on était sur l'autoroute, là, ça 417, dans le fond, c'est ça, l'autoroute, là? Pas à Montréal, entre Ottawa et Montréal. Puis je me souviens, tu sais, les arbres tout couchés. Pesant de verglas. Puis là, on était genre peut-être un mois et demi après. Parce que le problème, c'est que la crise du verglas, ça a commencé. Tu sais, il a commencé à mouiller vers le 5 janvier à peu près. Puis la première journée, c'était pas si pire, mais ça a été 24 heures, 48 heures. Puis c'est après 48 heures que là, on a vraiment vu qu'il y avait un ostique de problème parce que c'était de plus en plus violent. Puis ça a duré en tout 4-5 jours. Puis la quantité totale de verglas qui a tombé, là, c'est 10 cm.
J'allais voir des reportages où on interviewait le président d'Hydro-Québec, puis en début de crise, puis il disait le pire scénario qui pourrait se passer, ce serait qu'il continue à pleuvoir puis qu'il y ait encore du verglas, mais on pense pas que ça va arriver. Ça fait déjà longtemps qu'il y en a, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Il y en a tombé. Là.
Ça n'a pas de bon sens. Une semaine de verglas, là, quand est-ce qu'on a revécu ça? Avant 98, moi, je me souviens pas de ça. Peut-être que vous autres, je sais pas. Mais 5 jours en ligne de verglas, puis tu sais, violent. Puis le pire, c'est qu'il y avait le vent au travers de ça. T'as eu le verglas, puis après ça, dans la semaine d'après, après le 9 janvier, ça a été le vent. Fait que là, c'est que t'avais des pylônes qui tombaient pendant que le verglas tombait. Mais après ça, c'est le vent qui a tout mis ça à terre. C'est incroyable. En tout, là... En frais de dommages matériels d'Hydro-Québec, là, c'est 617 pylônes électriques tu sais, des pylônes en fucking
acier. Qu'on pensait indestructible, là. C'était supposé résister à tout, là.
Mais c'est de l'acier collé.
Oui, puis une structure, là, tu sais, à toute épreuve, là, tu sais, un bijou d'ingénierie qui peut résister à toutes les intempéries, mais quand les fils deviennent pesants puis que le vent les fait balancer, hey, Colin.
Alors, ben, mais... moi, j'ai deux, trois anecdotes par rapport à ça pour en rajouter sur ce que vous avez dit. Moi, j'habitais à Sainte-Adèle dans ce temps-là. Fait que j'étais pas dans l'œil de la tempête, là, si on veut, mais j'ai manqué d'électricité quand même une bonne période de temps. Là, peut-être
ouais, mais t'es un pays d'en haut, vous avez tous des poils à bois. Puis...
pas vraiment. 3-4 jours. Puis moi, j'avais resté embarré parce que je restais en fait dans un quartier où il était tombé des arbres qui faisaient qu'on pouvait pas en sortir. Il n'y avait pas de voie de contournement. Parce qu'il en était tombé 2-3, là. Tu sais, t'aurais pu prendre l'autre chemin, non, tu pouvais pas. Puis évidemment, avant de s'occuper d'un arbre, ils se sont occupés d'une couple d'autres affaires. Mais je travaillais à Laval dans ce temps-là. Moi, je travaillais en informatique, j'avais 25 ans. Puis dans les choses dont je me rappelle, c'est que moi, j'avais des collègues qui pouvaient plus habiter chez eux, là. Tu sais, qui sont allés dormir dans un gymnase, là. Tu sais, j'ai des collègues qui ont reçu d'autres collègues pour qu'ils puissent aller prendre des douches chez eux, des trucs
dans le monde. Dans le en masse, là.
Ouais, c'était n'importe quoi, là. Tu sais, ils étaient tous claqués, brûlés, écœurés.
Ça, c'était les chanceux qui étaient hébergés. Il y a du monde qui ont été livrés à eux-mêmes. À Granby, un foyer de personnes âgées. Puis ça, c'est. Il y a un ingénieur qui a été. En fait, il y a eu une commission après la crise du verglas pour en évaluer l'impact. Puis, un des commissaires de cette commission-là, il se rappelle qu'un foyer pour personnes âgées à Granby, que du jour au lendemain, ils ont manqué d'électricité, puis les employés, ils rentraient plus. Fait que t'avais des personnes âgées dans un foyer non chauffé avec pas de staff pour s'occuper d'eux autres. Rien.
Allez, pense-y. Oh. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'ils réfèrent à ces événements-là comme la pire catastrophe naturelle de l'histoire du Québec. Là. Puis,
écoute, c'est la pire, oui.
Ouais, puis sans, écoute, là, c'est pas un concours de tragique, là, avec le déluge du Saguenay et certaines autres affaires bien plates qui sont arrivées, là, si on s'entend. Mais hey, moi, je lisais, en se préparant, je lisais, il y a eu 545 centres d'accueil / refuges, là, puis il y a 140 000 personnes qui ont dormi là au moins un soir. Tu pensais à ça, là, le paquet de monde que ça fait, ça, là?
Puis il n'a pas fait si froid, hein, parce que après la pluie verglaçante, ça tenu autour de moins 10. Fait que, s'il y avait eu moins 30, on aurait eu des morts, plus de morts. Il y a eu des morts, là.
Oui.
Puis la plupart, c'est parce qu'il essayait de se chauffer de façon artisanale. Tu sais, rentrait le barbecue en dedans, puis il essayait de se chauffer avec ça. Mais quand t'as pas de cheminée, la boucane, t'as respire, hein. Fait qu'il y a beaucoup qui sont asphyxiés comme ça, là.
Oui,
puis au-delà du fait que les foyers n'avaient pas d'électricité, puis que. Les chemins étaient barrés, mais s'ils étaient barrés pour toi, Martin, ils étaient barrés pour les pompiers, ils étaient barrés pour les ambulances.
Ben exactement ça, t'as raison.
Puis souvent, il n'y avait même pas besoin d'avoir un arbre à terre. Les fils électriques, ils étaient tellement pesants qu'ils pendaient au-dessus de la route, puis ça faisait qu'un camion de pompiers ne pouvait pas passer. Là. Puis c'est ça. On pense aux... Ceux qui l'ont vécu facile, ils se disent « Ah, ben moi, mon plus tôt, il ne marche pas pendant 3 jours. » OK, c'est triste. Mais il y a eu d'autres places que ça a été pas mal plus grave que ça. Là. Il y a eu... Quand c'est rendu, il faut t'envoyer l'armée. Là, puis l'armée, leur mission prioritaire, c'était ça, c'était d'ouvrir la voie pour que les services d'urgence puissent aller secourir le monde. Fait que là, c'était, ils ont acheté un paquet de chainsaws, c'est la chaîne, puis là, les soldats coupaient les arbres. Puis
ouais, c'est eux autres qui ont...
Oui, puis c'est eux autres d'ailleurs qui ont cartographié l'ensemble du réseau, ce qu'il y avait des pannes, les places qui n'avaient pas d'électricité, parce qu'Hydro-Québec était tellement débordé qu'ils n'étaient plus en mesure de le faire. Fait que c'est l'armée qui a fait ça. Ils ont demandé toutes sortes d'affaires à l'armée. L'affaire la plus spéciale, c'est que à un moment donné, dans le pire moment de la crise, il restait juste une ligne électrique qui alimentait l'ensemble de l'île de Montréal. Puis on s'entend-tu que c'est gros, là, Montréal, là, c'est une ligne. Ça dépend d'une ligne. Puis quand t'as plus d'électricité dans une grosse ville comme Montréal, ben c'est pas juste le PlayStation qui marche plus, c'est l'usine de traitement des eaux qui marche plus aussi. Là, t'sais, c'est les feux de circulation. C'est t'sais, puis d'ailleurs, quand on a pris une certaine mesure impliquant des hélicoptères, il restait à peine 2 heures d'eau potable, puis il y avait déjà plus assez de pression pour que les pompiers puissent combattre les incendies à l'aide des bornes fontaines. Puis des incendies, il y en avait, parce que le monde rentrait de barbecue pour chauffer en dedans. Il faisait ce qu'il pouvait pour se réchauffer, fait qu'il mettait le feu, tout ça. Ben, Mais il y avait même pas assez de pression dans les bancs de fontaine pour que les pompiers puissent les utiliser parce que il y avait l'usine de traitement des eaux était paralysée. Fait que ce qu'ils ont fait, puis en désespoir de cause, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est que la direction d'Hydro-Québec a demandé à l'armée canadienne d'aller en hélicoptère au-dessus d'un des pylônes de la ligne qui alimentait Montréal et de pitcher des billots de bois sur le pylône pour juste essayer de péter à la glace pour que ça allège un peu, pour pas que ça lâche, parce qu'on était à 2 heures de la catastrophe. Là. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pitché des pylônes, puis finalement, il y a des monteurs de ligne qui sont allés sur le pylône, allés sur un autre pylône aussi, par hélicoptère, parce que c'était la seule voie qui marchait pour aller réparer ça. Puis c'est ces deux monteurs de ligne-là qui ont sauvé le courant à Montréal. Ils ont un peu sauvé Montréal, entre guillemets. Là, ils ont sauvé Montréal d'une catastrophe qui aurait pu être pire en débarquant d'un hélicoptère directement sur un pylône après avoir pitché des billots de bois. C'est spécial.
Mais ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, je l'ai lu tantôt. Là, mais en tout, là, pour revenir au fait mettons, que l'armée s'en est mêlée, c'est 11 000 soldats qui ont été dépêchés au Québec, puis 5 000 en Ontario, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ontario aussi, ils ont été touchés dans le coin, mettons, du sud de l'Ontario.
Ils vont brasser aussi.
Hey, c'est du monde, c'est des soldats. Puis juste une petite affaire que j'ai lue tantôt, là, il y avait une femme soldat avec deux jeunes d'une réserve, je me souviens plutôt quel régiment, en tout cas. Puis eux autres, ils étaient affectés à un gymnase, OK? Puis la fille, elle avait 21 ans, puis les deux jeunes avaient 17 ans. Puis eux autres, dans le fond, on leur a demandé, tu vas là, puis tu mets de l'ordre. Dans le fond, c'est juste d'aider le monde, comme ça. Puis, parce qu'il y en a qui ont été engagés, comme tu as dit, pour aider le monde, tout ça. Mais il y en a qui ont été engagés pour comme agents de la paix, là. Parce qu'il y a des gyms, là, tu sais, il y a des places, c'est sous-sol d'église, gymnase, etc., que c'est en train de virer à l'anarchie, là, parce que, hey, il y avait du monde qui baisait devant les autres. C'était vraiment l'anarchie
En Nouvelle-Orléans, les shelters, quand il y avait eu le gros ouragan, là, il y avait un paquet de crimes, des meurtres, des viols, c'était épouvantable. Oui, ça prend de l'ordre partout, puis, hey, méchant mandat. Bon, ben, tu veux nous montrer ton leadership? C'est le temps, embarque là-dedans pour mettre de l'ordre.
Il y avait des cas de prostitution dans les toilettes des gymnases, vente de drogue, vol, etc. Fait que, tu sais, c'était comme tout le monde à même place. Tu te retrouves de tout. Là,
t'as la petite famille avec les enfants en bas âge à côté de deux punks qu'il faut. Ça peut être n'importe quoi. Là.
Exactement. Imagine. Puis le pire là-dedans, puis après ça, Martin, je vais te laisser aller. Mais le pire là-dedans, c'est qu'en 98, quand c'est arrivé, là, il y avait certaines villes et villages qui n'avaient pas de plan de mesures d'urgence cas de catastrophe naturelle. Tu sais. Fait que ça, comme tu as dit, Frank, tantôt, c'est que ça allait amener une commission par après pour voir c'est quoi qui n'a pas marché. Là, parce qu'on s'entend qu'il y a des affaires qui n'ont pas marché. Là. Même le gouvernement, même Lucien Bouchard a dit au 20e anniversaire, c'était en 2018, dans le fond, il a avoué qu'il y avait de l'improvisation dans quasiment tout parce qu'on ne savait pas quoi faire tellement que c'était rough.
On se sent tellement à l'abri au Québec, il arrive tellement jamais rien.
Ben justement, c'est comme une des premières crises du Québec moderne, mettons, de crise climatique, là, si on peut dire. Là, fait que tu sais, il y avait même pas
30 morts. Trentaine de personnes qui ont perdu la vie. Là. Il y a beaucoup que c'est par les chauffages artisanaux. Il y en a que c'est par hypothermie. Des fois, tu t'endors, tu gèles, tu t'en rends pas compte. Ça, c'est des humains, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui ont été obligés d'abattre leur bétail. Il y en a que c'est parce que, tu sais, quand t'es une petite ferme familiale, comme il y a 100 ans, avec deux vaches, c'est pas un problème. Eux autres, ils peuvent toffer aux frettes, là, puis ils ont pas besoin de PlayStation, sauf que quand t'as 200, 300 têtes, là, 300 vaches, là, si tu les traites pas à tous les jours, là, ça peut poser problème. Si tu peux pas t'en occuper à tous les jours, puis ça prend des machines comme ça, des machines qui marchent à l'électricité. Je veux dire, ils sont pas 50 000 employés là-dedans. Il y en a qui ont été obligés d'abattre leur bétail parce qu'ils étaient pas capables de s'en occuper.
Hey, pense-y. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, ça avait été un sujet très d'actualité, peut-être moins pendant la crise du verglas, mais après, le nombre de mes collègues qui se targuaient d'avoir fait une pause d'assurance parce que soudainement, tout le monde avait du filet mignon dans son congélateur, du caviar, de la vodka à 300$ la bouteille, puis tout le kit. Puis tu sais, dans toute la frénésie, puis le désarroi de tout ça, ben tu sais, un claim d'assurance pour le contenu de ton frigidaire. T'sais. On s'entend que tout le monde garde pas ses factures au cas qu'il y ait une crise du verglas qui paralyse le Québec pendant 2 semaines. Là. On est d'accord. Là. Fait que tu sais, tout le monde disait, hey, là, faites des listes de qu'est-ce que vous avez dans votre congélateur, puis mettez-en. Puis là, quand vous allez claimer vos assurances, fait que là, tout le monde recevait 700, 800, 1000 piastres, whatever. Tout le monde parlait tout le temps de ça.
C'est 700 000 demandes pour une valeur de 1,4 milliard de dollars qui a été réclamée aux compagnies d'assurance. Juste aux assurances.
Ouais, c'était pas toute de la viande, là, on s'entend, mais...
Non, mais 700 000 demandes, puis 1,4 milliard.
C'est complète. Moi, en tout cas, dans ma vie...
Il y en a qui ont fait leur sous-sol, hein, parce que les tuyaux qui pètent, ça en fait du dommage.
Moi, dans ma vie d'adulte, en tout cas, c'est une des affaires les plus weird... Tu sais, freakant. Tu sais, moi, j'ai jamais été dans une situation, mettons, d'avoir peur, là, à cause de whatever la raison, là. Tu sais, c'est rien à comparer avec les gens qui étaient en Montérégie puis dans le triangle noir, là, puis tout ça. Mais, moi, je me rappelle même de qu'est-ce que ça avait l'air dehors, là. Ça, t'avais vraiment l'impression d'être dans un film apocalyptique, un peu, là.
Mais en même temps, c'était.
Les transfos qui pètent puis toutes ces affaires-là, là. Ça, je me souviens très, très, très bien de ça, là.
Ouais, c'était tout un buzz de marcher dans la rue puis d'entendre les. Tu sais, c'est parce que d'habitude, c'est le silence. Puis là, t'entends des branches cassées au loin, t'entends des transfos péter. Ouais. Tout ça dans un décor bucolique et féerique de magie de Noël, de glace, tu sais, avec. C'était beau, par exemple. Mais Caroline, ça pétait partout. Non, mais c'est quoi plus beau que du verglas dans un arbre traversé par un rayon de soleil?
Moi, là, toute la crise du verglas, là, ils ont fermé le bureau, puis ce que j'ai fait, j'ai joué au crib avec ma blonde à la chandelle, peut-être pendant 3 jours. Puis tous nos amis, mettons, qui vivaient alentour dans le quartier, ben là, il y avait des parties quasiment à tous les soirs, tu sais, qu'on se ramassait toute la gang avec des chandelles, puis à parler de ça. C'était
pas
mal.
Il y a eu un petit baby boom, hein?
Ben sûrement, c'est ça, je m'en allais.
Oui, il y en a eu un. Il y a eu un petit baby boom pendant la crise du verglas, un mini baby boom. Ah oui, ça... Comment pourrait dire ça de façon romantique et jolie? Ça a fourré dans les foyers!
Ben, c'est ça. Ça a m'embauché dans les chaumières.
On rappelle qu'il y a eu des rapprochements de la fraternisation.
Ouais, c'est ça. En septembre, il y a dû avoir un petit boom, là, justement, vu que c'était en janvier. Mm. Là. Mais non, mais pour. Je fais bien les jokes, mais ça, tu sais, je compatissais vraiment, là, avec mes collègues et tout ça, qui étaient pognés, là, tu sais, vraiment avec plus rien, là, tu sais, je veux dire, plus d'eau chaude, ils pouvaient plus laver le linge. Je pense à toutes les affaires que t'as pu quand t'as pas d'hydro pendant longtemps, là. Puis, non, ça, des fois, ça sentait le Moyen-Âge un peu dans le bureau, là.
Mais en même temps, pense à l'ouragan Katrina, puis crème, on est bien, hein. C'est ça, nos pires catastrophes, nous autres, là, c'est plus de TV pendant une semaine.
Non, c'est sûr.
Plus de chauffage, là, mais tu sais, on meurt pas, là.
La moitié de la population du Québec a manqué d'électricité.
Non, c'est énorme. C'est énorme, mais tu sais.
Mais
30 morts sur une catastrophe aussi étendue, ça se compare pas avec n'importe quel des ouragans qui frappent d'autres. Ou un typhon, ou bien un raz de marée en Thaïlande, tu sais, je veux dire. Ben on est bien. Nos catastrophes sont quand même soft. Même nos catastrophes sont molles. Maudit qu'on est mauvais.
Là, je suis surpris, je suis très fier de toi, Frank, parce que j'ai vraiment pensé que tu trouverais une façon de mettre la religion dans la crise du verglas, puis à date, ça va bien.
À date, ça va bien. Je vais mettre la politique, par exemple. Si vous pensez qu'on va faire un pays que le Québec, même nos catastrophes les pires, sont molles.
Mais en tout cas, écoute, ça avait été quand même quelque chose de méga impressionnant, là, tu sais, tu parlais du décor, les arbres, tout ça, là, tu sais, moi, j'ai jamais revu ça, là, autant, tu sais, une petite crise de branche, là, tu sais, grosse comme mon petit doigt, tu sais, puis il y a 4 pouces de glace dessus, du bord en bord. C'était capoté, vraiment capoté.
Bon, on va boucler la boucle avec une toune de plumes qui célèbre l'hiver et son amour pour cette saison particulière. C'est le crachoir numéro 98, la crise du verglas.
Il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds. Puis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidou, j'ai pas de garage. La slotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir. J'ferme toutes mes fenêtres puis j'veux même plus sortir. Wow, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai des pieds.
Pis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'suis comme un ours dans le fond de sa cage. J'cultive la mousse sur mon visage. Du if à frette, du j'ai envie de partir. Du j'me sens prête à pas me faire engourdir. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, l'hiver pour moi. C'est pour ça que j'ai les pieds, c'est pour ça que j'ai les doigts. Pis c'est bon pour ça que j'ai la tête dans le temps des fêtes. Dans le sud, c'est un maudit beau voyage. L'hiver est moins rude sur une plage. Le grand soleil à 50 cents par jour. Ça va à peine d'aller faire son petit tour. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. Hey!
Le crachoir, numéro 98, la crise du verglas. Jay a exceptionnellement un deuxième sujet pour nous cette semaine. Il va nous parler de la relève en politique américaine, ou plutôt le manque de. C'est bien ça, Jay?
C'est pas peu dire, mon cher Frank, parce que tantôt, pourquoi que je voulais parler de ça ce soir, c'est que tantôt, j'écoutais la TV, parce que là, je suis en relâche. Fait que là, je suis avec mon petit, puis tu sais, j'écoute... J'écoute les nouvelles pis tout ça. Puis aujourd'hui, c'était, ben là, on enregistre, on est le 3. C'était le super mardi, un peu comme à TVA Sport, là. Puis, dans le fond, c'était la journée pour les démocrates. La journée pour les démocrates pour faire élire des délégués, OK? Pour, mettons, gagner les primaires aux États-Unis et puis aller affronter ultimement Donald Trump, OK? Et puis, c'est là que j'ai réalisé que ceux qui se présentent, là, ça l'a tout quasiment en haut de 70-75 ans. Puis, c'est ça que moi, dans le fond, je voulais juste amener ça. Je capotais ben reste, je me suis dit, comment veux-tu espérer déloger Donald Trump, maintenant, si t'as pas de candidat, tu sais, avec plus de, comment je dirais ça, avec plus d'énergie que ça, tu sais, on dirait un club vraiment de l'âge d'or, à part Bernie Sanders, que j'adore en passant.
Non, mais il y a 102 ans aussi, date, là.
Mais tu sais, oui, je pense qu'il y a 60, je pense qu'il y a 75 ou 78, un des deux. Mais tu sais, c'est dans la deuxième moitié des 70, on s'entend. Le monsieur, il a eu un malaise cardiaque l'année passée. Puis, justement, ça, il se présente pour être président, dans le fond, être le candidat démocrate. Puis, t'en as là-dedans qui se sont tassés. Puis, il y en a un en particulier qui s'est enlevé pour rejoindre Joe Biden, qui lui, en passant, aussi a 76 ans, là, qui était le vice-président, dans le fond, qui était le vice-président de Barack Obama. Je sais pas si vous en souvenez un peu.
Oui. Ouais, Joe Biden, on s'entend-tu que c'est, on peut pas vraiment parler de quelqu'un d'envergure qui jouit d'un prestige sans faille, là?
Non, puis en plus, c'est que son... En tout cas, comme je disais, à part Bernie Sanders, ouais, ben tu sais, en plus, comment je te dirais ça, il est terne. On dirait qu'il y a rien, tu sais, il amène rien de nouveau. Tandis que Bernie Sanders, il est plus socialiste, mais ouais, c'est ça, c'est un Stéphane Dion.
Stéphane Dion, il est plate comme la pluie un samedi matin. Là.
Exactement. Et puis, c'est ça, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un des candidats qui s'appelle Pete Buttigieg, chose de même, là, que lui, c'est Buttigieg. C'est un, dans le fond, c'est un sénateur, je crois, du Colorado, dans ce coin-là, dans l'ouest des États-Unis. Et puis, lui, s'est retiré pour rejoindre la campagne de Joe Biden. Puis, lui aussi, je l'aimais bien. Il amenait quelque chose de différent. Un candidat ouvertement homosexuel, il faut le rappeler, qui, tu sais, il était confiant dans ses idées, tout ça, et puis s'est retiré mystérieusement la semaine passée, je crois, pour rejoindre Joe Biden. Et puis tout ce que je voulais amener, dans le fond, c'est vraiment un court segment que j'amène, là, c'est que il n'y a aucune relève, on dirait. T'sais, on dirait depuis les années Obama. Obama, je pense que quand il était élu, il avait 48 ans, chose comme ça.
Donne-moi une seconde. Pour ceux qui ne replacent pas Joe Biden, c'est celui que vous avez vu sur des gifs ou dans des montages vidéo bizarres où on le voit taponner des petites filles dans des scrums de presse.
Exactement.
C'est exactement lui. Là. Il est maudit. Il m'écoeure. Je le trouve dégueulasse. C'est ce qu'ils ont de mieux à proposer. Là.
Exactement. Ben, c'est justement, tu sais, tu disais la relève ou le manque de relève, ben ça amène justement un Joe Biden à se présenter puis à gagner. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder sur Internet, puis il y a 162 délégués de Biden qui ont été choisis la fois qui ont remporté leur nomination contre 96 pour Bernie Sanders. Mais là, en ce moment, tu sais, il est comme 9h en ce moment, 9h moins quart le 3 mars. C'est pas fini. Mais Joe Biden est en train de gagner ce super mardi-là.
Attends un peu, Frank. Jay, sais-tu sur le nombre de bureaux de scrutin, combien qu'il y en a de fermés, par exemple? Il en reste encore beaucoup à dépouiller ou?
J'ai aucune idée. Je suis en train de fouiller pendant que. On s'entend, les États-Unis, c'est aussi vaste. Ben pas aussi vaste, mais tu sais, c'est quand même assez étendu comme territoire. Là. Fait que sûrement que les derniers résultats vont arriver peut-être vers minuit à soir. Là.
Surtout que c'est très subdivisé. C'est 50 États. Là.
Mais vraiment, tu sais, vraiment. Puis en plus, le Parti démocrate qui est un peu éparpillé, ben, il est éparpillé un peu partout, on s'entend. Là. Puis.
Oui. S'entends-tu que les démocrates, je pense qu'ils prennent même pas cette élection-là au sérieux. C'est certain qu'ils ont compris que ça leur prendrait une vedette pour battre. Parce que je pense que les dernières élections nous ont appris que ça sert à rien de s'adresser à l'intellect des Américains. Ce qu'il faut, c'est donner un Christy de bon show puis leur mettre une vedette d'en face. Puis moi, je suis du côté de Bill Maher, là-dedans, Maurice Bill Maher, qui a un show, une quotidienne, qui parle beaucoup de politique, puis il dit... Ça prend genre une Oprah Winfrey pour battre Donald Trump. Ça prend quelqu'un qui a autant de notoriété, qui est une superstar, puis qui en plus serait pas une tarte. Parce que Joe Biden, son image publique est de la merde là, tu sais. Puis son attrait pour les jeunes, c'est zéro là, tu sais. Oui, t'as des liberals là, je le dis en anglais parce que si je dis libéral, on pense aux libéraux canadiens, pis ça n'a rien à voir, là. Mais les libéraux américains sont très pauvrement représentés si c'est ça qu'ils ont de mieux à offrir, là.
Ben, c'est justement, puis moi, c'est pour ça que je me dis, peu importe qui va sortir de là, attendez-vous à un autre 4 ans de Donald Trump. C'est quasiment, moi, je vous dis, là, je suis ça depuis que c'est commencé, les primaires, là, puis c'est quasiment sûr que n'importe qui va se ramasser là, contre Donald Trump, il va se faire ramasser bien raide.
Ah oui, pour citer un poète que je connais personnellement, c'est écrit dans le miel.
Les gars, moi, c'est à quoi ça me fait penser, Jay? Donald Trump, ça me fait penser au boss à la fin d'un level d'un jeu vidéo. Tu sais, tu commences un jeu vidéo, tu l'aimes au bout, puis ah ouais, puis là, t'arrives à un level, puis là, le boss à la fin, t'es pas capable de le passer. Fait que là, un moment donné, t'es écœuré, il y avait pas de walkthrough dans ce temps-là, c'est Internet, puis toi, t'as du fuck, puis tu joues plus au jeu. Ça me donne l'impression que plus personne ne veut jouer, là.
Je vais pousser ton analogie encore plus loin, Martin. C'est vraiment comme un boss de jeu vidéo que tu tires dessus, puis plus qu'il faiblit, plus qu'il sort des gros moves, puis moins t'as de chance de le battre. Oh, plus tu tires dessus, plus tu lui fais mal, plus qu'il est fort. Puis c'est vrai, il est comme ça, Trump, parce que plus qu'il se fait attaquer, plus que c'est partisan pour plutôt... Moi, j'aime mieux dire c'est groupie, parce qu'il n'y a pas tellement... c'est le monde qui traite sur Donald Trump, c'est des groupies. C'est rarement réfléchi leur affaire. Ils trippent sur le bonhomme, il est cool. Fait que plus qu'il se fait attaquer, plus qu'il dit des affaires cool, des stupidités puis des énormités, mais eux autres, ils trouvent ça cool. À lui, ils parlent. Tu sais, ça les impressionne.
Puis tout ça. Non,
mais il y a bien du monde qui sont faibles de caractère puis qui vont être impressionnés par quelqu'un qui va parler fort, par quelqu'un qui va...
Ah ouais.
Plus t'es faible, plus t'es impressionné par la force. Puis Donald Trump affiche la même genre de force qu'un bully affiche. Puis eux autres, ben ça les impressionne. Fait qu'ils trippent dessus. Ils trippent sur ce qu'ils ont pas.
Pensez-y, les gars. Là, on est en train de parler du président des États-Unis qui a quoi, Jay, 6 semaines? Il y avait des perspectives potentielles, on a toujours su que ça allait être de destitution.
Ouais.
Il y a eu du monde sérieux qui ont répertorié genre 500 menteries pendant son premier mandat. C'est pas des affaires.
Non, c'est pas 500, là, c'est en dizaines de milliers. Je pense que c'est genre 16 000 pendant son premier mandat.
Il y a des affaires graves là-dedans, c'est ça le pire.
Des affaires graves. Aucun politicien sur Terre pourrait se permettre, sauf que lui, il peut parce que il y a pas des partisans, il y a des fans. Justin Bieber, il peut cracher dans la face de ses fans, puis ils vont l'aduler pareil, puis ils vont triper pareil, puis s'il veut avoir dans la loge après le show, il va les avoir. C'est le même phénomène avec Trump. Il pourrait le cracher dans la face, puis ils vont dire à lui au moins, tu sais, courage de nous le dire. C'est peine perdue. Faut attendre qu'il fasse ses deux mandats, s'assurer qu'il calisse son camp. ou ben souhaiter pour qu'il y ait quelque chose qui le retire du pouvoir avant le temps.
Tu sais à quoi, moi? Tiens, j'ai une meilleure analogie, là, OK? Donald Trump, là, c'est Stone Cold Steve Austin. Il était tellement populaire, le gars, il pouvait faire n'importe quelle connerie, puis le monde en redemandait, puis le monde, tu comprends-tu?
C'était plus gros que la Ligue, il était plus bien que la Ligue.
La notion d'acceptable n'existait plus. C'est plus grave, là. Tu sais, c'est quelle grossièreté qu'il va faire cette fois-ci, tout en continuant de nous dire les vrais enfants, hein, puis toutes ces affaires-là, puis l'immigration, puis
Le pire, c'est qu'on s'est habitué, puis c'est devenu de new normal. C'est devenu normal. Il ment, il dit des affaires qui n'ont pas de crise d'allure. Il rit d'un handicapé, puis on va même plus comme s'en insurger parce que, bon, c'est Donald Trump, il est comme ça. Fait que, qu'est-ce que, tu sais, quand lui va partir, là, est-ce que cette culture-là va mourir avec lui ou bien s'il a établi des nouveaux standards, là?
Je pense pas. Moi ce que je veux dire, c'est que, on dirait, comme tu dis, il a établi des nouveaux standards, puis moi, je pense que maintenant, là, en politique, là, dans les cours de politique, on va dire, les conseillers des futurs candidats dans les prochaines années vont dire abaisse son adversaire, justement, soit bully. Là,
mais c'est déjà ça depuis longtemps aux États-Unis. Tu regardes les campagnes, là, pire, là, surtout plus petit les candidats, pire c'est. Là, t'en as qui... J'en ai vu une, là. C'était un candidat républicain qui attaquait son candidat démocrate, puis dans la pub, il disait « Mon opposant, il pense que la Bible, c'est pas tout vrai, puis il pense aussi que on devrait les filles se laisser avorter, puis il veut tuer des bébés! » Il dit ça de même dans la pub, puis ça, c'est depuis des années, c'est bas comme ça. Fait, jusqu'où on peut descendre le plancher, je pense que Trump, c'est le troisième sous-sol, là. Je vois pas comment on peut remonter. Maintenant qu'on a mis le plancher bas comme ça, ben ça fait maintenant partie de la culture politique américaine. Maintenant, le plus bas, c'est plus de faire des insinuations douteuses sur son adversaire. C'est de rire d'un handicapé puis dire que tu pognes les filles par la plotte. C'est ça le plus bas. Puis je vois pas où est-ce qu'on peut descendre tellement plus bas que ça. Là.
En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. T'sais. On peut avoir une surprise, on peut se dire les Américains sont caves, etc. Mais
sont imprévisibles.
D'un coup, qu'il y a une surprise. Justement, ils sont imprévisibles d'élection en élection. Eux autres, on peut bien se réveiller en novembre, là, c'était en fin d'année, en 2020, puis avoir Joe Biden comme président. Les Américains, je veux dire, pour nous
autres, ouais, juste avoir Joe Biden comme président
à cause qu'ils sont tellement imprévisibles, justement. Puis juste vous dire les noms des démocrates. Et républicains, parce que oui, les républicains font le même exercice, là. Les démocrates qui sont encore en liste, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg, je pense que c'est l'ancien maire de New York.
Oui, exact.
Et après ça, ben, t'en as qui ont zéro, en tout cas, ils sont genre une chier, là. Puis, les républicains, ben, t'as Donald Trump qui en a 153 en ce moment, il en faut 1276 pour gagner, mais son plus proche poursuivant, il y en a un. Et c'est Bill Weld. Et puis les autres, ça se nomme Joe Walsh, je pense qu'il fait du, je pense qu'il fait du blues. Et puis Rock de la Fente, qui est aussi,
Joe Walsh qui était guitariste pour les Eagles?
Ben non.
Je pense pas, là.
Okay, parce que là, tu dis, il fait du blues, là. C'est comme...
Non, ça ressemble à Bob Walsh.
Ouais, c'est ça.
OK, OK.
Parce que ça ressemblait, là. Attention, là. Même pas de monde.
Ouais. Mais l'autre, je l'aime bien, il s'appelle Rock de la Fente. J'aime bien.
Rock de la Fente. Comme nom, c'est vraiment.
Ouais, Rock de la Fente.
Ouais. Donc, on avait inventé un personnage qui s'appelait.
Il y en a zéro.
Hey, Rock de la Fente. Ça me fait penser à un personnage qu'on avait inventé, un de mes amis a inventé. C'est un nom qui se crache. Son nom, c'est Rock Prou, mais on le prononçait ça va bien vrai. Rock de la Fente. Ça pourrait être un nom composé. Rock Prou de la Fente.
Mais ouais, Rock de la Fuente. Genre,
ah, de la Fuente!
De la Fuente, je pense, ouais, ça, ouais. Je pense que c'est un. Il vient du Nouveau-Mexique. Alors, voilà, les gars, ça vous montre l'étendue des candidats qui se présentent pour les deux camps.
Je pense qu'il n'y en a pas un qui va aller se faire.
Vraiment très relevé.
Je pense pense que les candidats sérieux, ils vont venir après Trump parce qu'il n'y a personne qui veut se faire planter par un imbécile comme Trump, puis c'est ça qui va arriver.
Il y a personne qui veut dire j'ai perdu contre Trump.
Ah non, mais c'est ça. J'ai perdu contre un imbécile, puis il n'y a personne aussi qui va aller se faire. Tous les politiciens, ils comptent des menteries puis ils font de la calomnie sur leurs rivaux, mais les fans de Trump, eux autres, ils le croient, tu sais, c'est ça le problème. Fait qu'il peut dire n'importe quoi, puis le monde le croit. Fait que, tu veux pas l'affronter, cet épais-là, pas parce qu'il est intelligent, puis parce qu'il est populaire, puis le monde, il l'aime, puis ils vont croire ce qu'ils vont dire, puis toi, tu vas sortir de là, mais détruit, parce que publiquement, le monde va croire celui qui parle le plus fort. Puis si on peut lui donner ça, il y a personne qui parle fort comme Trump. Il y a personne qui se fait entendre comme Trump.
J'ai une question pour vous autres, les gars, par exemple, avant qu'on conclue là, ce segment-là, c'est que, tu sais, est-ce que Trump ne serait pas un petit peu également le contrebalancier de l'écœurantide de la langue de bois des politiciens?
Ben oui, mais c'est comme ça qu'on a essayé d'expliquer son élection là, depuis le début. Là. Peut-être, Martin.
Moi, je pense que oui.
Au-delà de ça, moi, Frank, je vois dans le même sens que toi. Tu sais, quand je dis il est populaire, puis tu sais, il est passé à
Twitter,
puis il était sur Twitter, puis tu sais, toutes ces affaires. Ça, je l'achète, c'est correct. Ça, je comprends. Mais je te parle de l'espèce d'intelligentsia politique américaine. Je te parle pas du gros redneck avec un pick-up. Je te parle, là, tu sais, de ceux qui sont à la chambre, ceux qui composent le collège, ceux que, tu sais, là, est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont tout simplement rangés un peu comme Commodus dans Gladiateur, tu sais. C'est, regarde, le raz-de-marée est commencé, fait qu'on va se ranger derrière lui parce que, écoute, c'était le fils de voyons, là, je veux le nommer, Jay, tu dois le savoir.
Oui, Marc Aurel.
Tu sais, fait que là, la vague est passée. Fait que là, bon, tout aussi bien de se ranger parce que sinon, on va perdre pareil, tu sais. Fait que, tu sais, je te parle pas juste du gros redneck avec un pick-up. Lui, c'est correct, mais le reste, tu sais,
ils sont peut-être intimidés, mais je pense pas que c'est une protestation de la population américaine envers le politically correct pis l'élitiste, parce que je pense que c'est les surestimer beaucoup. Surtout quand tu regardes que l'état de l'éducation, ou plutôt du manque d'éducation aux États-Unis. Ils ont peut-être les meilleures universités au monde là, pour quelques riches, là, mais la plupart du monde, le système d'éducation, s'il y a une place qui fait plus dur qu'ici, c'est là-bas. Là. Puis d'ailleurs, ils sont quelque chose comme 16e au monde. Là, ils ont baissé beaucoup. Fait que moi je pense que malheureusement, là, c'est les surestimés qui leur prêté cette intention-là d'avoir voulu brasser le système. Moi, je pense que malheureusement, là, ils sont pas aussi brillants que ça, collectivement. Il y a des génies, là. Je veux dire, c'est eux autres qui sont allés sur la lune. Là, je veux dire, les Américains, t'as des génies puis t'as des épées. Mais je pense que démographiquement, là, c'est surestimer la population américaine que de lui attribuer l'intention d'avoir voulu protester en élisant quelqu'un qui était à contre-courant. Non, c'est, regarde, il parle fort, il est cool, il sac, il a de l'air fort. Tu sais, il trippe ses guns, ce monde-là. Là, il se crosse avec des revues d'armes à feu, là. Je pense que c'est les surestimer que de leur prêter des intentions profondes comme ça.
Avec des revues, ah oui.
Ben, c'est l'image que j'ai. L'image que j'ai dans un sketch de Rock et Belles Oreilles. Il dit, j'étais en train de me masturber avec ma revue d'armes à feu, puis mon gros vibrateur a pété. Puis moi, ça m'est resté. Je crie, quand je regarde comment les Américains vénèrent leurs armes, puis tu sais, ces affaires-là, puis c'est l'image que j'utilise depuis ce temps-là.
Mais en revenant à ça, pour conclure, Martin, moi je pense, je suis d'accord avec toi d'une certaine mesure, parce que moi, je suis certain qu'il y a quelques dizaines de milliers, peut-être même centaines de milliers, qui ont voté pour Trump justement pour brasser les affaires.
Ou peut-être juste pour, juste pour le faire, on le fait, pas game. Ça se peut.
Ouais, ça se peut. Mais cette année, tu sais, 4 ans plus tard, en 2020, peut-être faut espérer que ce monde-là aille de l'autre côté de la balance, parce que c'est tout ce qu'il y a eu comme différence, dans le fond, pour l'élection de 2016, parce que rappelez-vous que le nombre, mettons, d'électeurs qui avaient voté de pour Trump et puis pour Clinton, c'était quasiment égal. Fait qu'imaginez, ouais, si la balance va d'un bord ou de l'autre, ben, tu sais, va du côté démocrate, ben là, ça pourrait faire justement, ça pourrait faire un changement. Parce que justement, comme tu dis, Frank, il y en a là-dedans qui ont eu des TEPA games, puis ils ont voté pour
c'est
Trump.
Sûr. Tu sais, c'est pour le show, mais le problème, c'est que là, la superstar qu'ils risquent de mettre en face de Trump, c'est un vieux monsieur louche qui force les petites filles à l'embrasser publiquement. Hey, excuse, là, mais je pense que si moi, je suis capable de le démolir en une phrase, Trump va être capable, là.
Ah, j'ai hâte. J'ai hâte au débat.
Il se rendra pas là, il va mourir avant là. C'est sûr que c'est sûr que la veille du débat, le cœur lâche là. C'est mais certain moi, là. Voyons donc, il sait que ça va se faire démolir là. Trump là, il va s'habiller avec la peau de ce gars-là, de Joe Biden, mais qui est fini là.
Moi, je m'en disais pire que ça, Frank. J'ai peur pour lui qu'il gagne. Il va péter. Là. T'sais, s'il gagne, c'est terminé. T'sais, il va aller faire son discours de remettre. C'est sûr. Là.
Non, mais si Frank gagnait juste pour se rendre à être le dernier candidat, être le candidat ultime contre Trump, juste ça, ça va avoir raison de sa patate.
Tu es parti, tu sais, que pour gagner l'investiture, pour se présenter contre Trump, c'est lui qui gagne, puis il fait. Oh fuck.
En tout cas, moi, si j'étais un républicain, là, je commencerais déjà à faire mon montage des images louches de Joe Biden avec tes petites filles.
Ben ouais, c'est
ça. Puis là, tu le dis une semaine dramatique là-dessus.
C'est sûr. Pendant qu'on parle, j'allais voir l'âge de Joe Biden, il a 77 ans. Puis s'il est élu, là, ben, quand il va être, mettons, nommé président, puis avec le discours et toute la patente en. En 2021, je pense que c'est en février que ça se fait, ben il va avoir 78 ans. Fait que ça l'amènerait à 82 ans à la fin de son mandat, si jamais.
C'est-tu pape la job? C'est-tu pape ou président des.
Je pensais, c'est comme la job de pape, dans le fond. On dirait que tu prends le plus vieux de la gang tout le temps. Hein.
Ben, ça, c'est le Parti démocrate. Le Parti républicain, ils prennent celui qui va les faire gagner, tu sais.
Puis bon. Trump, je pense qu'il a. Y a-tu 75 ans, le bonhomme?
Trump, y a-tu vieux de même?
Ah, il est âgé, Donald Trump. Là. Trump, il a 73 ans.
Ça fait longtemps qu'il nous fait chier.
Crime, oui. Ouais. Mais il a encore du power, hein?
Ah, il a encore
du power. Ouais, ouais,
moi, en tout cas, l'écouter parler, là, il se fait.
Il est vigoureux.
Ouais, ah, c'est peut-être il est né en 46, il a 73 ans. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des vieux monsieur, comme tu dis, sauf que Trump, il se garde jeune avec Melania, fait que...
Des vieux conservateurs, puis même les démocrates sont conservateurs selon nos standards. Plutôt peut-être oui. Sanders, mais Sanders, lui, il fait peur, les Américains, il pense qu'il va virer les États-Unis en enfer socialiste comme le Venezuela. Eux autres, là, c'est ça, là. Tu sais, on fait un système de santé pour tout le monde. Venezuela. C'est le socialisme, c'est le communisme. Ils comprennent pas ça. Eux autres, ils pensent que le socialisme, c'est quelque chose que tu t'appliques unilatéralement puis que là, tu deviens un pays comme le Venezuela. Ils sont pas capables de comprendre qu'une démocratie puis un système capitaliste peut incorporer quelques valeurs socialistes. Genre comme, tous les meilleurs pays du monde où il y a une meilleure qualité de vie, un plus petit taux de criminalité, une plus longue espérance de vie, des meilleurs soins pour tout le monde, une meilleure éducation. Les pays qui réussissent le mieux sont des pays capitalistes avec quelques apports socialistes, comme les pays scandinaves. Le Canada, c'est ça, on est capitaliste, mais on a des éléments socialistes pour avoir une justice sociale puis une qualité de vie. C'est ça qui fait que notre système, à mes yeux, en tout cas, est supérieur à celui des Américains qui c'est juste... Le plus fort, le plus riche, puis les autres qui crevent. Les républicains, avec d'ailleurs l'aide de Fox News, ont tellement bien fait leur job de terroriser les Américains en leur faisant croire, ou peut-être qu'ils le croient sincèrement eux-mêmes, qu'à la minute où on va instaurer, mettons, un système universel de soins de santé, ben c'est le premier pas vers le socialisme, puis la pauvreté, puis un enfer épouvantable, comme le Venezuela, puis ils citent toujours le Venezuela. Ils sont pas capables de citer un autre pays, parce que c'est celui que ça marche pas, tu sais, puis on s'entend-tu que c'est pas le même genre de socialisme qui est pratiqué là que celui dans les pays, tu sais, comme le Canada ou comme les pays scandinaves, où ça fonctionne très bien, là, la France, même, tu sais, c'est... Mais non, les Américains, c'est un peuple qui est paranoïaque et peureux. Peureux et paranoïaque, parce qu'il dit, c'est home of the brave. Puis ça, là, je reprends un peu ce que Bill Maher a déjà dit, deuxième référence à lui, mais qu'est-ce que tu veux, il est brillant. Il disait, comment on peut s'appeler the home of the brave tandis qu'on a une armée qui est tellement grosse, qui est plus grosse que les 13 autres pays qui nous suivent et qui sont tous nos alliés. À quel point il faut être peureux et paranoïaque pour avoir autant d'armes puis une armée aussi grosse. C'est fou quand tu y penses. Là. L'armée américaine, c'est plus gros que l'armée des 13 autres pays qui ont les plus grosses armées réunies ensemble. Puis ces pays-là sont des alliés des Américains. Faut-tu être crackpot paranoïaque puis peureux. Fait que c'est pas Home of the Brave, c'est Home of de gars avec un chapeau en papier d'aluminium puis qui caresse son gun en attendant que les zombies viennent le tuer là, tu sais, c'est fou là.
Mais eux autres c'est triste parce que tu sais depuis le début des États-Unis, il y a tout le temps eu comment je dirais ça, on a tout le temps cherché un ennemi. Tu sais quand il y a eu la révolution américaine là, ben on avait tout le temps peur que la Grande-Bretagne revienne. Puis ils sont revenus, tu sais, au début des années 1800.
Ben c'est pour ça, le second Amendment.
Ben justement, tu sais, il y a tout le temps eu la peur de « on va se faire attaquer ». Parce que oui, c'est déjà arrivé qu'ils se fassent attaquer. C'est arrivé comme 40 ans après leur début. Mais après ça, c'est quand la dernière fois que les États-Unis se sont fait attaquer? En 40, en 41 avec Pearl Harbor, puis après ça en 2001? Ils se font pas attaquer toutes les années.
Un terroriste, c'est pas une attaque, là. C'est pas un pays qui a déclaré la guerre, là. C'est un attaque terroriste, fait que ça compte pas, là. Personne menace les États-Unis, là.
Ben non, puis personne
n'est une menace pour les États-Unis, je vais le dire comme ça. Il y en a qui menacent, là. La Corée du Nord menace constamment l'Iran. Mais je veux dire, personne n'est une vraie menace pour les Américains, là.
Mais honnêtement, je pense que personne peut les attaquer parce que t'attaques les États-Unis, c'est fini, là. Puis ce que je voulais amener tantôt, justement, tu sais,
ça leur prend une guerre,
ils ont peur, ils sont paranoïaques. Comment t'as dit ça?
Ça leur prend tout le temps une guerre parce que sinon, le film de leur vie, il est plate. Comprends-tu, eux autres, il faut que ça brasse. Puis un président qui n'est pas guerrier, mais pour eux autres, c'est pas un vrai président, tu sais.
Parce que c'est un pays-là, là, c'est un show continuel. Tu sais, avant Donald Trump, là, tu sais, Trump, justement, c'est, on dirait une télé-réalité en soi, là, sa présidence. Là. Ouais, mais c'est tout le temps, comme tu dis, c'est tout le temps. On dirait que c'est axé, genre, sur le bon, le méchant, la police, tu sais, la police mondiale.
Ben,
axe c'est
of evil,
puis
ben.
Puis ce que tu disais tantôt, c'est ça que je voulais dire, c'est que. Tu sais, ils ont peur du communisme, là, mais tu sais, il faut se dire que depuis les années 40, là, ben, ils sont fait dire pendant quasiment 50 ans que les Soviétiques allaient leur pitcher des bombes sur la tête. Fait que tu sais, le monde aujourd'hui qui ont genre 60, 70 ans, là, ben, ils ont peur du communisme parce qu'ils se sont fait dire ça toute leur jeunesse. Ils ont continué à dire ça à leurs jeunes par après. Alors, les Russes sont ci, sont ça.
Oui, puis les Républicains jouent sur cette peur-là.
C'est interminable.
Puis les Républicains ont le don de jouer sur cette peur ancestrale. Puis, tu sais, aussi sur celle que si le gouvernement vous enlève vos armes, c'est parce qu'il prépare de quoi, puis vous pourrez pas vous défendre contre lui. Tu sais, c'est des affaires qui marchent plus aujourd'hui, qui sont pas contemporaines, mais ça marche avec les vieux. Les vieux transmettent ça aux jeunes, parce que les jeunes aussi, les jeunes qui trippent sur Trump aussi, là, tu sais, c'est off my cold dead hands. You won't take my guns. Non, mais c'est fou, là. C'est comme une grosse secte, là, tu sais. Puis on sont pas tous dedans, là, la secte, là. Tu sais, il y a des Américains qui ont bien de l'allure. Puis c'est ça qui est bizarre aux États-Unis. C'est que t'as les plus arriérés d'extrême droite, redneck stupide d'un bord. Puis t'as aussi les plus progressistes, puis les génies de la politique, puis qui auraient des. Sauf que. Démographiquement, je sais pas si t'as vu le film Idiocracy, mais ça explique bien que démographiquement, les idiots ont pris le pouvoir. America, 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 fuck yeah, coming again to save the motherfucking day, yeah, America, fuck yeah, freedom is the only way, yeah, terrorists, your game is through, cause now you have to answer to America, fuck yeah, so lick my butt and suck on my balls, America.
brasseurs, il les dénonce. Les charlatans, il les pourfend. Les mythes, il les brise. Les tabous, il les encule.
Le crachoir numéro 98, la crise du verglas. Martin va souligner un autre événement majeur en 98 que ceux qui n'avaient pas l'électricité n'ont pas pu apprécier tout de suite, Martin.
Ben oui, écoute, c'est en 98 qu'est venu au monde ce qui est devenu très utile, mais en même temps une monstruosité gigantesque qui s'appelle Google. Qui n'a pas googlé aujourd'hui, messieurs?
Hey, parle pas trop fort, elle va t'entendre. Moi, j'ai Google Home.
Ah, ben écoute, j'endors là d'abord, mais c'est le fruit, en fait, d'une collaboration entre deux personnes qui, semblerait-il, ne s'entendaient sur absolument rien. C'est les deux types en question s'appellent Larry Page et Sergey Brin, qui étaient des étudiants au doctorat à l'université de Stanford, qui ont eu l'idée suite à des constatations de certains outils d'indexation de recherche dans des articles scientifiques. Et je vous épargne les détails techniques, là, c'est pas de ça du tout qu'on va parler, mais qui ont fondé, en fait, l'entreprise qui est devenue Google, qui fait maintenant partie de l'acronyme dont on a déjà parlé ici quand Ricardo pleurait pour avoir de l'argent pour son site web, qui s'appelle le GAFA, donc qui est composé de Google, Apple, Facebook et Amazon. Je vous garoche plein d'informations, là, puis après ça, on en parlera de l'impact qu'on peut définitivement dire que ça a eu dans nos vies. À ce jour, excuse-moi, en 2018, le 20 janvier 2018, la capitalisation boursière de Google est de 793 milliards de dollars. Ça veut dire que tu prends, si une personne achetait toutes les actions en circulation, là, ça coûterait ça. OK? On parle d'une entreprise qui a traversé la crise du crash du Nasdaq en 2001, de tout ce que vous voudrez. Moi, je me souviens d'une époque où les engins de recherche qu'on utilisait, il y en avait plusieurs, là, il y avait WebCrawler, il y avait AltaVista, il y avait Yahoo, évidemment, et il y avait Google, puis Google... de l'avis de beaucoup à une certaine époque. Tu sais, c'était le site de recherche de marbre. Tu allais sur google.com, tu voyais juste Google avec une ligne en dessous.
C'était comme cool. Bing aujourd'hui.
Il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de, tu sais, pas de pub, il n'y avait rien. Tu sais, Yahoo, tu avais des sports, tu avais toutes sortes d'affaires. Fait que c'est un peu comme ça que, si on veut, que tout a commencé. De vous faire l'histoire de Google, en fait, ça serait trop long. Ça se résumerait à une explosion totale et complète sur tout azimut à propos de toutes les technologies. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça englobe? Google, ça englobe YouTube, Google Chrome, qui est le système d'exploitation, le système d'exploitation Android, les téléphones Google Pixel, les outils de vente de publicité AdSense, AdWords, Google Earth, Gmail. Écoute, ça n'a aucun espèce de bon sens.
Puis c'est là, les autres Internet, là.
Ce que je viens de vous... Ben, c'est eux qui génèrent le plus de trafic sur la Terre depuis ben, un bon...
On a inventé un verbe « googler » à partir de Google. Si vous restez à Québec, peut-être vous ne dites pas ça. Ben, à Québec, ça se prononce « Google », mais...
Ben, d'ailleurs, parlons-en du mot, parce que l'origine, en fait, il y a une petite histoire là, qui n'a pas encore été nécessairement démystifiée, là, parce que semblerait-il que... Il y en a qui disent que c'est une affaire, il y en a qui disent que c'en est un autre, mais Google, en fait, vient du mot, en anglais, ça se prononce Google, et en français, ça se prononce Gogol. C'est un terme mathématique qui signifie le chiffre 10 à la 100. Donc, ah. 10 à la 2, 10 à la 3, 10 à la 4, ben 10 à la 100.
Puissance 100.
Exactement, exposant 100, ça se dit, ça a son propre terme et ça se prononce en anglais Google et en français Gogol. L'histoire voudrait que la personne qu'ils avaient mandatée pour acheter le nom de domaine s'est trompée quand il l'a enregistré et il a pas écrit le terme mathématique, mais a écrit le terme qu'on connaît, qui est G-O-O-G-L-E. Il y en a qui
ça
disent...
Ça ressemble à des goggles.
Ben, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Il y en a qui disent, apparemment, la raison pour laquelle ça aurait pas été le terme Google, G-O-O-G-O-L, comme ça devrait s'écrire, .com, c'était que le nom de domaine avait déjà été attribué à une autre entreprise en 95. Là, bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est quand même un tidbit intéressant d'information. Tu sais, on parle d'une explosion massive, là, tu sais, lors de la fondation, ils recevaient 10 000 requêtes par jour, un an plus tard, c'était 500 000, tu sais, vous voyez le genre de croissance, là, parce qu'eux autres, ils ont réinventé l'indexation du web, t'sais, en gros, là, c'est qu'ils ont trouvé une nouvelle façon, je vous épargne les détails, je comprendrais rien, puis eux autres non plus, mais ils ont trouvé une nouvelle façon d'indexer tout ce qui se trouvait sur l'Internet, de façon à ce que les résultats de recherche étaient pas plus rapides, ils étaient juste plus pertinents par rapport au sujet de la recherche de la personne, puis après ça, ben, il se construit un petit peu de business intelligence, c'est-à-dire que, tu sais, basé sur l'utilisation que tu fais de Google ou de Chrome comme le furteur, ben là, ben, ils vont te donner des résultats de recherche qui sont peut-être plus pertinents avec tout ce que tu as fait, mettons, dans la dernière année, si tu gardes en compte tes cookies ouverts, puis tu sais que
t'es... C'est tellement rendu performant. Même la machine Google Home, là, tu y poses une question en québécois, tout croche, puis elle te sort la réponse, c'est fou raide, là.
Exactement. Là, l'autre chose qui distingue beaucoup Google, c'est qu'ils ont des ramifications dans un paquet de domaines. T'sais, ils sont rendus à un niveau où est-ce qu'ils sont tellement gros que un moment donné, pour le fun, ils peuvent investir 500 millions dans une compagnie start-up qui fait des affaires. T'sais, à un moment donné, ils ont sorti des lunettes de réalité virtuelle qui s'appelaient Google Cardboard, qui étaient faites en carton. Fallait que tu les montres toi-même. Tu sais, ils sont rendus là, ils sont rendus à un niveau où est-ce qu'ils peuvent y arracher un milliard dans quelque chose au cas que ça marche, là, tu sais. Puis écoute, il y a du bon monde qui travaille là parce que ça marche souvent. Fait que...
Non, mais là, quand t'as ce genre de moyens-là, tu peux prendre des chances, puis tu peux faire des long shots, là. Ils ont tellement d'argent, ils pourraient acheter toutes les équipes de la LNH puis les faire jouer au baseball. Là.
Exactement. Autre chose aussi que j'ai découvert en faisant des recherches, c'est que Google Maps, quand ils l'ont sorti, c'est rapidement devenu, écoute, un outil de référence incroyable. Moi, je me rappelle quand Google Maps et Google Earth est sorti, on tripait tout, on allait voir les merveilles du monde sur Google Earth avec du relief puis tout avec des modems de marde, ça prenait des heures avant de le voir.
Mais on essayait de voir notre maison.
Mais oui, effectivement, mais plus tard, ça a été ce service-là est également contributeur de la géolocalisation des téléphones cellulaires maintenant. Tu sais, fait que c'est, fait que tu sais, quand je te dis des ramifications dans tout, c'est vraiment absolument n'importe quoi, là. Autre affaire que je savais, mais dont j'ai creusé un petit peu plus. Puis là, je vous parle même pas de Street View puis toutes ces affaires-là. On connaît tous ça, là. Google est également, la plus grosse ferme de serveurs du monde. OK? Ils ont 900 000 serveurs. OK? Puis ces 900 000 serveurs-là, c'est pas l'Internet qu'il y a dessus, là. Ce sont les outils, c'est la plateforme qui gère l'indexation des recherches pour que quand toi, Frank, quand toi, Jay, vous êtes chez vous, vous tapez whatever dans Google, tu reçois les résultats. C'est ce à quoi sert ça. Et c'est quoi le terme, là, quand tu parles du niveau de pollution de quelque chose? L'empreinte.
L'empreinte, oui.
Tu sais, ça consomme et ça au niveau de l'effet de serre et tout ça, là, ça consomme l'équivalent d'une coupe de centrale nucléaire, là, cette histoire.
Oui, tout un coût. Quand tu dis que même un courriel a un coût environnemental, imagine tous les courriels.
Oh ouais, je vous lis exactement la citation. Les fermes de serveurs de l'entreprise sont réputées pour avoir une consommation incluant les systèmes de refroidissement représentant plusieurs centrales nucléaires. Tu sais, c'est rendu là tellement que c'est gros, là. Puis moi, je sais bien que pour avoir vécu, tu sais, juste pour vous donner une idée, puis là, vous m'écrirez des niaiseries, là. Tu sais, moi, mon adresse Hotmail, là, c'est martingodette@hotmail.com. T'sais, c'est pas martingodette2842/... Non, non, c'est mon nom.
Vous savez
nom.
Où envoyer vos photos?
Ça fait longtemps que je suis sur Internet. Fait que, tu sais, j'ai connu l'époque, peut-être aussi, Frank, là, remarque, là, mais...
Oui, oui.
J'ai connu l'époque Mosaïque, j'ai connu l'époque Netscape, j'ai connu...
Netscape!
Ah oui. Ah oui, j'ai connu Alta Vista, j'ai connu...
Casa, LimeWire.
Ben, toutes ces enfants. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et je fais partie de ceux qui se disaient, c'est quoi ce cossin-là, Google? Tu sais, ça a
l'air... Oui, ben oui. Ben, c'était juste un cowboy de plus dans le Far West de l'Internet de ce temps-là.
Oui, mais visuellement, c'était pas attrayant.
T'sais. Non. Tout était dégueulasse, mais eux autres, c'est comme, il y avait de l'air de commencer, mais tu sais, finalement, ce cowboy-là tuait tout le monde.
Et voilà.
Je me rappelle qu'on riait du nom Google. Moi, j'étais ado, là, tu sais, en 2001, 2002, 2003, là, on riait de ça, Google, mais on a commencé à le prendre, puis à un moment donné, c'était un automatisme, là. Puis ce que je voulais dire, là, je faisais une recherche, Martin, pendant que tu parlais de tout ce qu'ils font Google, là, en octobre 2019, Google a atteint la suprématie quantique. Ça veut dire que ils ont réussi à faire un processeur qui est capable de résoudre un calcul que normalement ça prendrait 10 000 ans à un ordinateur de solutionner. Ça a pris 3 minutes à ce processeur-là. Tu vois où est-ce qu'ils sont rendus côté justement intelligence artificielle puis informatique? Là?
En 2008, donc écoute, il y a 12 ans à peu près, là, il y avait indexé 1000 milliards de pages web. OK? Puis en octobre 2010, Google représentait déjà 6,4% du trafic Internet mondial.
Comment il peut avoir 1000 milliards de pages web? Il n'y a même pas autant d'humains sur Terre.
Là, il y en a, ça finit plus. Là. Hey, on est un méchant paquet. Là.
Non, mais il n'y a même pas 10 milliards d'humains sur Terre. Il faudrait que tout le monde aille.
Il faudrait que tout le monde ait 100 pages web, mais quasiment. Mais non, mais vous m'avez un peu volé le punch, c'est-à-dire qu'effectivement, Google, c'est plus juste une compagnie. Tu sais, là, je vais en mettre un peu, là, j'exagère un petit peu, mais ça fait partie maintenant de notre façon de vivre. Là. Pas plus compliqué que ça. On pourrait probablement dire quelque chose d'assez similaire de Facebook. Mais, tu sais, ça n'a pas du tout la même vocation. Mais Google, puis je parle pas de toutes les ramifications, je parle pas de toutes les entreprises dont ils sont propriétaires, actionnaires ou peu importe. Puis écoutez ça, là, moi, ça me fait capoter. Parce que quand je regarde la valeur d'une compagnie, je regarde toujours son nombre d'employés. Puis après ça, si tu divises par le nombre d'employés, tu vas te dire, hey, ils sont payants en salle, tu sais, ces employés-là. Tu pourrais t'imaginer, ça, c'est au premier quart de 2018, il y en a peut-être quelques-uns de plus, là, mais au premier quart de 2018, il y avait 85 000 employés. Tu sais, tu te dirais, ben non, il va en avoir 700-800 000. Non, il y en a 85 000. Divise la capitalisation boursière par le nombre de personnes qui travaillent là. C'est complètement débile, là. Divise 793 milliards par 85 000. Ça te donne-tu une idée du rendement de cette entreprise-là, là?
Les profits sont là. Hein? Non, mais tantôt, tu t'attendais que je fasse des références religieuses, mais t'en faire une. La nouvelle religion mondiale, c'est Internet, puis Google, ouais, c'est Dieu.
C'est très bien dit. Tu peux pas bien mieux dire que ça. Tu sais, puis la Sainte Trinité, ben c'est pas une trinité, c'est
quatre. GAFA.
C'est le GAFA, c'est ça, exactement.
C'est ce que je voulais dire.
C'est le table ronde.
Ouais, vas-y.
Attends, tu mets tout le GAFA ensemble. Là, tu parlais, le GAFA, c'est quoi? C'est Google, Apple, Amazon. Facebook, Amazon. Tu mets ça ensemble, là, c'est capable de faire virer des... Tu sais, on parlait tantôt de gouvernement. C'est capable de faire virer des élections coliques. Tu sais, il y a eu Facebook
qui a posé devant le Congrès. Puis le fermer, puis le partir
sur un autre. Ils peuvent... S'ils veulent, là, ils peuvent élire qui qu'ils veulent sur Terre. Là.
Mais
ça va jusque-là, ils pourraient le faire.
Montrer comment c'est gros.
Ça marcherait dans un système où il n'y a pas de limite que tu peux donner ou que tu peux dépenser en campagne électorale.
Il y a des raisons qui expliquent ce que je m'apprête à vous dire. Là, c'est que, tu sais, Google a plusieurs catégories d'actions. Donc, sa capitalisation boursière est plus grande. Le nombre d'actions en circulation est plus grand. OK? C'est normal, ça donne des chiffres à coucher dehors. Mais juste pour vous mettre ça en perspective, Amazon, c'est gros, hein? La capitalisation boursière d'Amazon en 2018, c'était 857 millions de dollars. Google, c'est 793 milliards.
C'est aucune commune mesure. Il n'y a rien que tu peux même pas comparer ça avec rien.
Non, pensez à mon raisonnement tantôt, nombre d'employés versus capitalisation boursière.
C'est payant, là.
Et la capitalisation boursière d'Amazon en 2018, 857 millions, ils ont 647 000 employés. Google en a 85 000.
Je sais pas si tu fais un calcul de toute la richesse de l'humanité au complet, quel pourcentage il y en aurait? 80%, 90%?
Ben, attends. Regarde, je te fais des comparatifs. Tu sais, la capitalisation boursière d'Apple, c'est 1400 milliards de dollars en janvier 2020. C'est plus gros que Google. OK?
Ouais, OK. Ça met les choses en perspective.
Puis regarde le nombre d'employés. Bouge pas. 137 000. T'es plus proche de Google, là. Puis on va finir. On va faire notre petit chum Mark Zuckerberg. On va aller faire Facebook. Facebook, tu vois, la capitalisation boursière. OK. Probablement que quand l'article a été fait, c'était pas réglé en quoi. Celui-là, je l'ai pas. Mais ça va être dans le même ordre de grandeur similaire. J'insiste, je répète, c'est normal qu'Amazon ait une plus petite capitalisation boursière. Ça veut dire qu'il y a moins d'actions en circulation, puis les détenteurs d'actions, ils en ont plus.
Tu sais, ouais, c'est ça. Il y a moins d'actionnaires.
Il y a plus de monde en termes d'actions. C'est normal, là, OK? Toutes choses étant égales par ailleurs. Mais il en demeure pas moins. Puis là, là-dedans, là, on n'a pas mis Sun Microsystems, on n'a pas mis Microsoft, on n'a pas mis... Fait que tu sais, Frank... Tu sais, tu disais, mettons qu'on prend la richesse mondiale puis que là, on prend ces gros conglomérats-là puis qu'on essaie d'évaluer le pourcentage. Bien, ça sera pas tant que ça.
Ouais.
Ça te donne une idée à quel point les riches sont riches puis les pauvres sont pauvres.
C'est fou. Ouais.
Google, c'est ça. C'est l'espèce de rockstar entrepreneurial qui démontre à nouveau à quel point, quand tu arrives au bon moment, que la bonne affaire, le bon produit, le bon timing, la bonne époque, tu sais, tout ça. Regarde, à cette heure, ils parlent de faire des chars, Google. Oui. Puis au début, c'est deux nerds qui étudient au doctorat, qui s'envoient tout le temps chier, qui ont une bonne idée ensemble. Là.
Ah, c'est fou, hein? ça parle pas grand-chose. Mais...
tu sais, c'est ça.
Hey, ouais, Martin, tu disais la capitalisation, c'est combien? 785 milliards?
793.
793, OK. Ouais. J'ai fait une recherche en parallèle pour savoir où est-ce qu'il se situerait Google en PIB si c'était un pays.
Bon, c'est quoi? Okay.
Il serait le 30e pays au monde avec le plus haut PIB. Et puis, il serait précédé de l'Argentine et suivi de l'Afrique du Sud.
Bon, tu vois.
Ils ont quand même été dans le top 50 des 200 pays.
Pays, c'est ça.
Pays. Et puis après ça, tu as les Émirats arabes unis. T'as la Suisse, t'as la Suède, tu sais, Suède 40e rang. Après ça, t'sais, des pays, mettons, t'sais, Norvège, t'sais, c'est pas juste des pays, comme dirait Donald Trump, des shithole countries. Là.
Des pays de cul. Hein.
Puis le pays, on a parlé de ces pays-là dans le crachoir, Frank, qui ont dit que c'est des endroits incroyables à aller vivre à cause des conditions de vie pis tout. Mais regarde, Google sont plus gros que eux autres. Ben, pas plus gros, mais en PIB, là.
Ouais, ouais.
Fait que, écoute, 1998, donc, tu sais, on parle de quoi, 22 ans, en 22 ans.
C'est imagine, 300, ça, là, c'est rapide, hein?
Construit le 30e pays avec le plus haut PIB en 22 ans.
C'est malade. L'Argentine, eux autres, ça leur a pris combien de temps?
Ça a été fondé quand, ça, l'Argentine?
Des siècles, hein?
Non,
début,
c'est
début 1500.
C'est complètement démesuré, puis en même temps que quand on paye, suppose, on recule pour regarder la forêt, tu sais, en même temps, c'est désarmant de réaliser à quel point on s'en sert aussi, tu sais, c'est ça l'affaire, là. On est autant victime qu'en pamoison devant ça, parce que...
On est tous dépendants de ça.
Ben, écoute, tu sais, moi, je sais bien que, je veux dire, Google, je réalise probablement même pas à quel point je me sers de ça, là.
Ah non, non, toute fois qu'on ouvre l'ordinateur, qu'on cherche quelque chose, on passe par là, qui va sur Yahoo? Là?
Ben là,
c'est ça encore.
Ben c'est ça, je voulais faire après ça tantôt quand Jay parlait, j'ai dit je vais aller voir si je fais Yahoo.com.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que Yahoo, là, c'est rendu que c'est le monde qui vont là-dessus, c'est juste pour de la porn, puis que ça a l'air c'est le meilleur engin de recherche pour de la porn.
Ah ben je sais pas, parce que moi je viens d'arriver sur la page d'accueil de Yahoo, puis c'est un
article
Alex Trebek, le gars qui animait Jeopardy, puis ça annonce que il a fait des grosses donations. À des œuvres de charité. Fait que si pour toi c'est de la porn, ben garde-toi.
Non, on m'a dit que c'était l'outil de recherche le plus performant puis que c'était surveillé qu'à ça. Ceux qui allaient sur Yahoo, c'est pour ça.
Bon, ben regarde, écoute. Mais effectivement, là, puis là, je suis sur Yahoo, puis c'est vraiment Yahoo qui est plate à mort à regarder, là. Ouais. Mm. C'est, en tout cas, fait que c'est ça, c'était mon petit tour de rapide, bien sûr, sur Google. Et, ben écoute, ça va s'accompagner d'une toune, messieurs. La toune s'intitule Search and Destroy, d'un band qui a une petite histoire quand même assez cool. Un band qui s'appelle LA Guns, qui existe encore d'ailleurs, qui a un frontman, guitariste lead absolument malade mental qui s'appelle Tracy Guns, mais... La petite histoire voudra que l'un des premiers chanteurs de ce band-là aurait été Axl Rose, qui, lui, était dans un band qui s'appelait Hollywood Rose. Et la contraction des deux noms de band a donné un autre band relativement mythique qui s'est appelé Guns N' Roses et qui a changé de nom, puis il y a eu plusieurs incarnations. Slash est arrivé après ça, tout ça. Mais je trouvais que Search and Destroy, c'était une toune très de circonstances pour parler de Google, parce qu'ils en ont détruit des entreprises sur leur passage. Et on fait beaucoup de recherches avec ça. Donc, Search and Destroy, LA Guns.
Cachoir 98, celui de la crise du verglas. Beaucoup de stock aujourd'hui dans un show qu'on a réussi à garder quand même dans des proportions raisonnables. On a été disciplinés aujourd'hui, pas trop de coq à l'âne ou de coq au vin, comme dirait Jean Perron. On est rendu à Poutine déjà, Martin?
Ben, moi, avant de faire ça, Frank, je tiens à remercier Jay. Écoute, Jay, tu es en train de devenir un grand garçon, son premier épisode au complet.
Ben oui, ben oui. Hey, justement, puis je suis bien content de ça.
Hey, c'est peut-être les débuts d'un nouveau Google là, qu'on t'apprend à faire, les gars. Là. on ne sait pas, là, le Google.
Hey, avant que tu continues, Martin, là, dans mes recherches en parallèle de PIB, là, ouais. Ben, Google là, pourrait s'acheter, mettons, parce que la Grèce vaut 312 milliards, ben, il pourrait se l'acheter deux fois. C'est juste ça que, okay. Bon. Que j'ai à dire.
Bon, tu pourrais faire une retraite pour les employés. Tu sais, ils s'achètent un pays. Tu sais, il faut aller chiller.
T'achètes la Grèce.
Des souvlaki.
Ouais. Non, ben, c'est bon. Fait que c'est ça. Ben, écoute, la poutine, évidemment, bien sûr que si vous êtes en train de nous écouter le jeudi soir, dès 20h sur Radio H2O.ca, pardon, on vous dit un gros merci. Sachez que nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes où de bons podcasts se trouvent et des mauvais aussi. C'est-à-dire Apple Podcasts, Google Play, Spotify et tout bon podcatcher Android. D'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait que, tu sais, si on en a parlé, puis je me souviens pas du nom de la personne, Frank, là, peut-être que tu l'as pas loin, mais on se posait la question dans le dernier épisode de jusqu'où certains agrégateurs de podcasts permettaient à nos abonnés de reculer dans le temps, tu sais, pour aller voir des archives ou des vieilles affaires.
Oui.
Ben, y en a un qui en a trouvé un qui est allé jusqu'à l'épisode 1.
Ben oui, on est en archive quelque part.
Oh ouais, c'est ça, j'étais assommé, là. Écoute, je ne sais pas si ça tente de l'écouter, Frank, l'épisode 1 du
Cash. Oui, ça me semble que ça ferait mal, là. Ça doit être bizarre. Ouais. Ça doit être un peu genre, on cherche, on ne sait pas trop ce qu'on fait. C'était mon premier podcast à vie. C'était pas la première fois que je parlais d'un micro.
Non, c'est sûr.
Mais c'était mon premier podcast après la radio FM. Mais si jamais vous devez pas donner la peine de chercher qui nous garde comme ça en archive, allez sur Radio H2O, ils sont tous là dans l'onglet crachoir. Vous avez accès aux 98 épisodes du crachoir.
Hey, Frank, tu réalises-tu que ça approche du centenaire, cette histoire-là? C'est cool, hein? Maudit. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Fait qu'on va continuer notre poutine, bien sûr. Évidemment que vous pouvez visiter également crachoir.com. Tout est là aussi. Les derniers épisodes s'y retrouvent toujours. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, sur Frank, si vous ne me connaissez pas déjà, vous allez avoir plein d'informations. Et bien sûr, la plateforme volontaire qui s'appelle Patreon. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur Patreon. Patreon.com/crachoir. Il y a différents niveaux de contribution qui vont permettre à Frank de manger d'autres choses que des bines à tous les jours.
Bines et macédoine.
Ben, c'est ça, bines et macédoine géant.
Il y a un auditeur qui m'a envoyé une photo de canne de macédoine.
Ben, tu vois, c'est.
Quand m'a levé juste à la regarder.
Ben, c'est ça, mais tu sais, envoyez pas des.
Bouffe de centre d'accueil.
T'as des 2$ par mois, là, déjà ça, là, tu sais, c'est.
Frank va. Tu aurais goût de boulette, je t'en ai de la macédoine.
Frank va vous en être éternellement reconnaissant. Ou sinon, si vous êtes capable d'envoyer des trucs, tu sais, qui peuvent demeurer congelés. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, ce TV dinner-là. T'as-tu déjà vu le TV dinner Hungry Man?
Oui!
Hey, oui! C'est dégueulasse. Il doit peser 4 livres, mon gars.
Ah, alors, puis tu regardes une espèce de tranche de steak que t'as, une espèce de vieille saucisse qui a été écrasée dans les moules, avec une espèce de sauce visqueuse et grasse, des petits pois cabossés, des patates, tu sais, des patates dégelées, là. C'est juste plein d'eau puis de mouton, c'est immangeable.
Imaginez-vous un TV dinner ordinaire, OK? Puis à Star, pensez à quand vous alliez au secondaire, le cabaret. Le cabaret qu'il donnait à la cafétéria. Un Hungry Man, là, c'est gros de même. Man, ça rentre dans aucun congélateur. Si ça existait dans le temps de la crise du verglas, il y aurait du monde qui ont fait 700-800$ avec ça.
C'est
clair. Il y a de calories là-dedans, là, tu sais, ça
va. Mais tu peux pas manger ça, tu peux pas le faire chauffer dans le micro-ondes. Non, mais la technique, c'était tu t'assis dessus, puis quand ça se met à sentir la sauce brune, tu le manges. Ouais. Mais c'est dégueulasse. Effectivement, il faut vraiment avoir faim pour manger un Hungry Man.
Hey, Frank, là, je pogne Jay là, un petit peu au dépourvu parce que Jay, il y en a, on en a déjà parlé, puis si ça te fait chier que je fasse ça, Jay, ben, t'appelleras la police. Tu sais, il y a peut-être entre vous qui ne savez pas que Jay est non seulement un podcasteur très aguerri, mais également un auteur et un éditeur. Fait que là, Jay, là, tu vas prendre 30 secondes avant le mash-up, là, puis parle-nous de ça.
Fais ta poutine.
Ouais.
Ma poutine, ben, avant qu'on enregistre, moi, Martin, on en parlait justement, puis je dis à Martin comment je passe du temps là-dedans. Ça fait à peu près, là, on est en mars, ça doit faire 5 mois que je travaille sur 3 projets de romans. Dans le fond, c'est les éditions Dernier Mot. C'est une maison d'édition à compte d'auteur que j'ai parti pour sortir mes romans, dans le fond, depuis 2012. Puis, dans le fond, c'est ça, regarde. Puis, principalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des polars. Dans le fond, c'est des thrillers policiers. T'as des romans. Tu sais, il y a un roman érotique qu'on va sortir dans un mois à peu près. J'ai vraiment hâte de voir la... C'est genre une espèce de... Comment t'appelles ça? Fifty Shades, c'est ça? Là? En tout cas, c'est vraiment...
Of gris.
Lire au complet, parce que j'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je regarde c'est quoi, là. Mais vraiment, regarde, des bons auteurs qui se joignent à l'équipe, ben si vous êtes auteur puis que vous vous demandez comment faire pour sortir un roman, ben allez voir sur editiondernierMot.com, soumettre votre manuscrit puis on peut regarder ça, parce que justement à part faire du podcast puis travailler à l'école, ben je fais ça dans mes temps libres, fait que, et mes temps libres, ben c'est la nuit, fait que c'est ça, fait
que bon, si allez, vous voulez, t'as pas, là.
Regardez qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, là, tout est là. Il y a une boutique, il y a tout.
Je peux me rendre sur Édition Dernier Mot pour acheter des romans. Là.
Oui, exactement. Oui, des romans papier et électroniques, là, des e-pub.
Oui, oui.
Exactement. Dans le fond, on a quasiment une dizaine de romans de sortie depuis 8 ans. Fait que non, c'est mon bébé. Tu sais, il y a podcast.com pour Martin. Moi, c'est Édition Dernier Mot.
J'aimerais ça qu'on mette un lien de ta maison d'édition sur la page du crachoir.
Ben oui, on va on va la mettre sur je m'en occupe, les gars. On va mettre ça sur crachoir.com, puis on va le mettre aussi dans les publications des épisodes. Jay, quand tu fais partie de l'épisode, on va tout te patenter ça. C'est grâce à qui? Google va tout nous arranger ça.
Hey, Google est un facilitateur
c'est
de
très
culture.
Gentil.
Google, c'est un vecteur de culture.
C'est ça, exact.
Pas juste des filles tout nues et des sites de fake news.
Encourager des créateurs indépendants, surtout Jay, tu sais, qui, écoute, est après devenir un grand garçon, il a fait un crachoir au complet. Mais là, Jay, là tu vas vivre un grand moment, là.
Accompli.
Frank va nous présenter son mash-up.
Et c'est tout un cette semaine. C'est rare que je vais vous présenter un mash-up qui comporte plus de deux artistes, parce que souvent, c'est excessivement mauvais et mal fait. Mais j'en ai trouvé un qui est bien fait. Ça s'appelle Wish of Confusion. Ça tourne beaucoup autour de deux artistes, Stevie Wonder et Disturbed. Mais il y a un petit peu de tout au travers, y compris du Styx. Et attention, ça c'est pour toi, Martin. Il y a un petit bout de la toune de Macho Man au travers.
Ben non. Ah, tu parles de Pump and Circumstance, là. Le début de...
Regarde, je te laisse la découvrir par toi-même, parce qu'il faut être attentif, parce que ça passe quand même assez vite. Mais si t'es attentif, tu vas entendre Macho Man.
Okay.
Fait que on s'en va là-dessus. Ça a donné quelque chose de bon. Tout fait ce show-là, je trouve, avec Jay tout le long, Colin. Effectivement, t'es rendu un grand garçon.
Il nous fait bien paraître, en tout cas, Jay, merci beaucoup.
Je commence à croire là, que je suis rendu un grand garçon. En tout cas, c'était une belle expérience, les gars, d'être là pendant tout le processus.
Et qu'on s'aime donc. On va tous aller se googler, là.
Oui, parce que c'est la seule façon qu'on peut être virtuellement ensemble, parce qu'on est loin. Il y en a un au Témis, un à Montréal et l'autre en Abitibi. Les trois vous saluent et vous disent à la semaine prochaine. Voici Wish of Confusion. C'était le crajoir numéro 98. La crise du verglas. Smoking cigarettes and writing something that's been on my
de la famille H2O Web Media.